I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite vous arrive sous forme d'Extra Ball, notre version raccourcie mais tout aussi savoureuse que l'original qui nous permet entre autres de prendre quelques minutes pour évoquer une sortie du moment comme on va le faire immédiatement en causant de Ocean's 8 avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial Ocean's 8 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Même si vous ne savez rien du film, vous aurez compris avec son titre qu'il s'inscrit dans la série des Ocean. On pensait que la saga était close avec Ocean 13 en 2007, puisque Soderbergh et Clooney, la star de la franchise, avaient dit qu'ils souhaitaient passer à autre chose. C'était sans compter sur la capacité d'Hollywood à maintenir désespérément en vie les succès d'antan, d'où la mise en chantier de ce nouvel épisode 100% féminin, puisqu'on ne suit plus Danny, mais Debbie Ocean, sa sœur, jouée par Sandra Bullock, qui, inspirée par lui, va monter une équipe de super braqueuses pour un coup d'anthologie qui aura pour cadre le plus glamour des événements new-yorkais, le gala du Met. Et outre Bullock au casting, on a rien de moins que Kate Blanchett, Anna Tawai, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna ou encore Helena Bonham Carter, toutes rassemblées devant la caméra de Gary Ross, réalisateur de Pleasantville et du premier Hunger Games. Ça vaut quoi tout ça, Stéphane ?
Alors, c'est un film de série très générique, vraiment assez, dans le ton principalement du premier film et ouais. Un petit peu du deuxième sur certains points. C'est un film qui profite d'une certaine mode à Hollywood. Hollywood fonctionne par mode un peu étrange, c'est-à-dire qu'en fait ils ont l'impression qu'ils ont besoin de justification pour relancer des franchises, donc ils savent pas trop comment le faire. Est-ce qu'ils se disent quand est-ce qu'on va présenter ça au public? Donc à une époque il y avait cette histoire de reboot, tu vois, ce genre de choses. Et ben là maintenant c'est le pendant féminin, en fait le spin-off féminin ou ouais. Le remake féminin, voilà. Il y a notamment le plus célèbre jusqu'ici, c'était le remake des SOS Fantômes version féminine. Et on parle depuis des années de faire une version féminine d'Expendables, par exemple, qui s'appellera Expendable. Enfin, voilà, donc c'est un peu dans cette logique-là. Là, en l'occurrence, donc, comment elle s'appelle, Sandra Bullock joue la sœur de George Clooney. Ouais. Et c'est apparemment dans le sang, dans les gènes, en fait, d'être
un voleur.
Voilà, un arnaqueur, un voleur. Et le film s'ouvre littéralement de la même manière, c'est-à-dire c'est que le premier. Au lieu que ce soit George Clooney qui passe son
oral pour de détention, de liberté, de libération provisoire, on va
voilà,
dire.
C'est ça. C'est Sandra Bullock qui le fait. Et après, en fait, elle sort et c'est exactement la même chose. Elle recommence ses affaires, quoi.
Elle retrouve son ancienne partenaire, comme lui retrouvait Brad Pitt.
Exactement, voilà. Et c'est la blonde et la brune, le brun. Bref, donc c'est vraiment le même type de film. Ce qui est relativement agréable, j'ai envie de dire, vis-à-vis de de cette approche, c'est que c'est pas un film qui se veut volontairement féministe. C'est-à-dire que, comme par exemple le truc de SOS Fantôme, moi je trouvais que c'était une idée complètement stupide dans SOS Fantôme, dans le remake, c'était d'inverser les rôles et de donner le rôle de la blonde
décérébrée à Chris Hemsworth.
Voilà, c'est ça. Qui en plus, je trouve, avait pas vraiment lieu d'être dans SOS Fantôme parce que c'est la secrétaire. Donc,
elle n'était pas du tout une blonde décérébrée.
C'était juste une
nerd
en fait le premier. Donc je comprenais pas trop la logique. Et puis c'est un peu malvenu, j'ai envie de dire, d'un studio comme Sony qui a probablement fait plein de comédies romantiques avec plein de blondes décérébrées. Donc bref, c'est toujours un peu, moi je trouve, tendancieux de fonctionner sur ce genre de logique. Là, c'est pas du tout ça. À la limite, c'est même ce qui est même surprenant, c'est qu'il y a même pas, contrairement au premier Ocean's Eleven, une histoire d'amour en fait larvée qui cache. Parce que dans le premier Ocean's Eleven, si tu te rappelles, c'est Danny Ocean qui essaye de récupérer sa femme,
qui est désormais la compagne d'Andy Garcia, dont il va braquer le casino. Voilà.
Sauf que comme cet élément n'est plus là. Eh bien, en fait, déjà, c'est plus du tout un date movie, même inversé, on va dire, si tu veux. C'est assez étonnant. Et en fait, ça manque d'un point spécifique aussi, qui est un méchant, en fait, quelque part, un tout petit peu, comment dire, savoureux. Alors, moi, je dirais pas que Andy Garcia, c'est un méchant savoureux, forcément, dans Ocean's Eleven. C'est pas le personnage que tu retiens le plus, mais disons que ça, c'est un enjeu et un, comment dire,
un contrepoint.
Un obstacle. Bienvenue, quoi, si tu veux, dans l'intrigue du premier film. Qui reste pour moi le meilleur. Les autres, c'est vraiment pas possible, mais voilà. Et même si c'est encore une fois, c'est pas un grand film, je trouve, Sam Sullivan.
Mais c'est un film sympathique, qui a son charme.
Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que du coup, en fait, comme il n'y a pas cet élément-là, et ben tout est très facile. Et ça, c'est un autre problème aussi, je trouve, du film. C'est-à-dire que, à la limite, tu peux éventuellement, je pense que ça va être j'imagine que c'est vendu comme ça et que c'est pensé comme ça. Un film, en fait, pour que toutes les copines aillent un soir voir ce film-là ensemble, le groupe de nanas qui vont voir un film avec des nanas. Donc, j'imagine que c'est ça, la logique market. Sur ce point, bon, bah, il y a de la camaraderie féminine, je sais pas, tu vois, ça marche à peu près, quoi. J'ai envie de dire, peut-être, tu vois, je t'avoue que je me sens pas vraiment concerné par le sujet, donc voilà. Mais après, si tu veux, c'est surtout, en fait, quand tu connais l'original, enfin, quand je dis l'original, c'est
Soderbergh, qui était déjà un remake, ouais.
Bah là, t'as l'impression que c'est quand même de nouveau un remake, oui. Si tu veux, d'une
c'est
certaine
un remake
manière.
De remake.
Voilà. Mais bon juste signe. Inversé, quoi. Non, mais voilà. Après, le truc. Alors, le souci, c'est que moi, ce que j'appréciais éventuellement dans le remake de Soderbergh, c'était que c'était un film qui était soigneusement filmé. Oui. C'était pas génial. Mais c'était soigné. En fait, il est allé travailler auprès de il a commencé à étudier la mise en scène de McTiernan, par exemple, notamment sur Die Hard et sur Thomas Crown Affair. Il a fonctionné sur quelques trucs comme ça. Et du coup, en fait, si tu veux, même si ça n'a pas je trouve la viscéralité et la cohérence de la mise en scène de McTiernan, évidemment, ça va sans dire. Et ben, le fait qu'il ait essayé d'émuler ce style-là. Bah, c'était agréable à regarder au moins. Là, le problème, c'est que c'est un film qui est très moche. Les lumières très très moches, vraiment la lumière numérique de base, tu vois, comme à peu près n'importe quel film Netflix que tu vas voir produit par Netflix, tu vois, ou financé par, enfin je sais pas. Donc c'est un peu, c'est hyper générique, ouais. Ça sort pas du tout du lot. Voilà, il y a il y a aussi, je trouve un gros problème de plot point en fait moi j'avais fait une interview, alors qu'il a pas du tout bossé sur les Oceans et tout ça, mais j'avais fait une interview il y a quelques temps d'un scénariste en fait qui a travaillé sur Die Hard, qui est Steven De Souza, ouais. Et qui expliquait que lui il a bossé sur le casse du film en fait dans Die Hard. C'est un truc qui est révélé au moment donné au public parce que c'est une histoire de terrorisme qui finit en casse, et il disait que en gros le point du casse en fait est ridicule,
oui.
L'idée même du casse elle est ridicule, le plan est ridicule, mais la façon de le présenter au public permettait de rendre tout ça complètement digeste et crédible, et voire même hyper excitant. Voilà. Donc il y avait, parce que en fait t'attends de savoir quel est le prochain truc que les terroristes vont faire, et en fait quelque part en tant que spectateur t'es du côté des terroristes qui sont en train de mettre en place le plan.
Parce que tu veux comprendre.
Tu veux comprendre, voilà. Là, le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, t'as toute une mise en place, en fait, donc, avec quelques éléments, on va faire ci, on va faire ça, ils expliquent tout, tu vas détourner le garde, tu vas faire ci, tu vas faire ça, donc tu comprends tout en même temps, parce qu'ils sont en train de le préparer dans leur propre, planque. Et en fait, du coup, le casse n'a plus vraiment d'intérêt.
Oui.
Et du coup, les types sont obligés, en fait, les scénaristes, comme dans Ocean's Eleven, d'ailleurs, de rajouter un deuxième
casse dans le casse, quoi.
Voilà, c'est ça, pour rendre ça excitant, stimulant, pour le spectateur, stimulant. Sauf que c'est pareil, c'est dévoilé à la fin, donc du coup comme tout est dévoilé en 5 minutes avec des flashbacks, et ben tu te dis mais il est complètement con ce plan, ça marche pas du tout en fait. Comment ils ont pu faire ça, c'est une grosse entourloupe de scénaristes, qui pour moi en fait c'est pas que ça fout le film en l'air, hein, parce que contrairement par exemple à Ocean's 12, il y a un casse pour le coup, parce que le problème de Ocean's 12 c'est qu'il y en avait même pas, mais disons que
si, ils essayaient vaguement de piquer des tableaux à un moment,
ouais, mais en fait en gros tu te rends compte que c'était pour balader des sacs de thunes, voilà,
rien n'allait.
Donc t'as pas cette espèce de je m'en foutisme en fait absolu de Ocean's 12 ou ce genre de choses. C'est vraiment ça se veut un film carré de base, mais c'est vraiment, ça a une logique un peu de téléfilm, et voilà quoi. Après, que dire, tu vois, je veux dire, le truc c'est que j'imagine, moi je trouve que j'ai toujours trouvé Sandra Bullock plutôt sympathique comme actrice, tu vois, enfin elle a un vrai charisme, un vrai capital sympathie, donc c'est pas ça qui est vraiment problématique, mais disons que c'est vraiment léger, tu vois. Il y a ce truc qui est un peu étrange en fait, où tu sais pas d'ailleurs, si pendant tout le film tu te demandes si c'est vrai ou pas, parce que elle-même se pose la question, c'est que Clooney est censé être mort. Ah oui. Le personnage de Clooney est censé être mort. Et donc, du coup, en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu sais pas pourquoi ils veulent jouer avec ça ou pas, en fait, pendant le film. Et bon, comme il apparaît pas, hein, tu vois. Voilà, quoi. C'est un peu étrange. Donc voilà, ça se raccroche, en fait, très basiquement, en fait, à Ocean's Eleven pour ne pas dire qu'ils sont en train de faire un remake pur et dur, quoi. Ouais. Voilà. Et sinon, bah, il y a Rihanna. Voilà. Moi, j'aime bien Rihanna. Donc, bah,
moi aussi, j'aime bien
Rihanna. Qui joue un peu mieux là-dedans, quand même, que dans Battleship. En même temps, Temera, c'était pas dur. T'as l'impression qu'elle a pris quelques leçons de
oui. Voilà. Oui, et puis c'est pas Battleship.
Puis c'est pas Battleship non plus, mais enfin, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, c'est pas GG comme film, quoi. Et Rihanna, elle a un gros doigt de pied.
Ah bon?
C'est super bizarre. À un moment donné, il y a un plan. Et là, tu te dis, ah, elle n'est pas parfaite, donc, cette jeune femme, quoi. Ce qui la rend d'autant plus séduisante. Mais je pense que quand on en arrive à parler des actrices des films, c'est que voilà. T'as plus rien à dire sur le film.
Et
en fait,
aux considérations sur les doigts de pied de Rihanna, c'est qu'effectivement, on a fait le tournant. Il y a Kyle Reiner quand même
non.
qui fait son apparition.
Non.
Ah, mais je croyais qu'il me semblait qu'il faisait un caméo.
Non, le seul personnage qui revient, c'est Elliot Gould.
D'accord.
Dans une scène au début. Oui, non, ils ont annoncé Kyle Reiner et.
Matt Damon
Et non.
Ok, d'accord.
Et George Clooney non plus. Donc.
Oui, bah, Clooney, on s'en doutait. Très bien, ok. Bon, bah voilà, beaucoup de déceptions, tant pis. On ira quand même voir le petit doigt de Rihanna.
Le gros
pouce de Rihanna. Ocean Sight, c'est en ce moment au cinéma et notre temps est écoulé. Merci Stéphane. Merci à Quentin, à la technique et à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter, pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.